Alors, je tiens juste à dire que je ne suis pas comme ma femme, moi je mets des marque-pages dans ma Bible pour retrouver facilement les textes. Donc on va essayer, on va voir si ça marche. Le premier texte que je voulais parcourir avec vous ma réflexion, c'est le psaume 100. Donc je veux lire avec vous le psaume 100. Psaume 100, psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. C'est ce qu'on a expérimenté ce matin avec la louange. Pousser des cris de joie vers l'Éternel, même quand on est dans la souffrance, dans le deuil, dans la difficulté, dans les doutes. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Deuxième passage que je vous propose se trouve dans l'évangile de Luc. Nous ne sommes pas loin de ce que tout à l'heure Marie-Noël avait lu, mais nous sommes un petit peu plus loin au chapitre 15, les versets 1 à 7. C'est un texte bien connu, c'est le texte de la brebis perdue. Luc 15, versets 1 à 7. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant : Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole : Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit : Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres, 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et puis, deux extraits de 1 Corinthiens 3, de 1 Corinthiens 3, les versets 1 à 4 et les versets 21 à 22. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 4. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants de Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas non plus au présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul et un autre moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Les versets 21 et 22. Que personne, donc, ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Cephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Où sommes-nous? Où sommes-nous aujourd'hui? Question curieuse. Où sommes-nous? Nous sommes à l'église de la Vosges, à Darnay, dans ces murs qui nous accueillent. Nous sommes le 4e dimanche de mars. Nous pouvons dire aussi que nous sommes devant Dieu, en sa présence, en présence de Jésus-Christ, en présence des uns et des autres, dans une assemblée diverse où chacun est unique. Est-ce que j'y suis? Est-ce que mon esprit est là? Est-ce qu'on en perd quelques-uns par distraction, par souci d'autre chose? Où suis-je? C'est à cette question que j'ai pensé quand j'ai commencé à méditer sur ce texte connu. Il y a une histoire de déplacement. Le berger part à la recherche de la brebis qui s'est perdue en laissant les autres. La brebis s'est détachée du troupeau, elle a été distraite. Elle a été attirée par autre chose. Mais si elle se retrouve toute seule, elle est beaucoup plus vulnérable, sans repère. Où suis-je? Est-ce que je sais toujours où je suis? Et dans cette parabole, à qui je m'identifie? À la brebis perdue, qui a besoin de que le berger vienne la chercher? Ou aux autres brebis qui restent tranquillement à attendre? Est-ce que je m'identifie au berger qui possède ce troupeau de 100 brebis? N'est-ce pas curieux d'ailleurs ce chiffre de 100? Un chiffre rond, qui n'a pas été choisi par hasard par Jésus dans cette parabole. C'est la première série de trois qui se termine avec la parabole du Fils retrouvé. Le chiffre 100 n'a pas de sens en lui-même, mais c'est un tout. Il suffit qu'une seule brebis manque pour que ce tout devienne incomplet ou partiel. Il faut chercher celle qui est perdue pour que le troupeau soit à nouveau entier. Mais quand Jésus parle du troupeau et de la brebis perdue, à quoi fait-il référence? D'abord, que pouvons-nous dire du troupeau? Quand Jésus parle des 99 brebis, il s'adresse aux pharisiens et aux scribes qui le critiquent de manger vraiment avec n'importe qui. Ils ont leur bonne conscience pour eux et se considèrent parfaitement justes. Ensuite, la brebis perdue correspond à celui ou celle que Jésus accueille et qui est détesté dans le peuple, comme les collecteurs d'impôts qui étaient des collaborateurs de l'occupant romain. Mais alors, le troupeau entier des 100 brebis serait composé en même temps de ceux qui se considèrent justes et en même temps des pécheurs, symbolisés par la brebis perdue qui seule peut compléter le troupeau? Elle seule peut redonner une entité à l'ensemble. Jésus lui donne de l'importance et minimise l'importance des 99 autres qui n'ont besoin de personne. Cette entité composée de justes et de pécheurs appartient à quelqu'un qui en a la responsabilité. Qui est-il? À qui appartient le troupeau? Cette image du troupeau est bien connue du peuple d'Israël et nous l'avons entendue dans le psaume 100. Il nous a fait. Nous sommes à lui, son peuple, et le troupeau de son pâturage. Jésus a appris dans son ministère qu'il n'était pas envoyé seulement pour les enfants d'Israël, mais pour l'humanité entière. C'est ainsi qu'on passe de l'ancienne à la nouvelle alliance. Alors oui, nous pouvons dire, comme le psalmiste, nous appartenons à Dieu. Non seulement nous sommes héritiers de la première alliance, mais encore nous sommes dans l'alliance nouvelle, apporté par Jésus-Christ, et nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul, nous appartenons à Christ. Le nouveau troupeau n'est-il pas alors le monde entier, l'humanité entière? Un des messages que Jésus nous transmet, c'est que nous n'avons pas à décider nous-mêmes qui fait partie du troupeau ou pas. De même que les religieux juifs cherchaient à délimiter les contours du peuple d'Israël par l'obéissance à la loi, de même, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aimeraient bien mettre des limites et même des barrières à l'Église du Christ et exclure certaines catégories de personnes. La brebis qui se perd peut symboliser tous ceux et celles qui font des choix qui mènent à la mort. Mais elle peut aussi parler de ceux et celles qui se sentent perdus dans leur vie, qui n'ont pas de repères dans les choix à faire, dans les relations. Et puis, il y a d'autres brebis qui ne veulent pas reconnaître qu'elles se perdent et qui portent des fruits contraires à l'Évangile, des fruits de division et de désordre. Et nous, et moi, où suis-je? Où sommes-nous? Suis-je une brebis perdue? Sommes-nous une brebis perdue? Une brebis sauvée? Une brebis qui n'a pas besoin qu'on vienne la chercher? Cette histoire n'est-elle pas une critique de ceux qui se disent justes et ne pas avoir besoin de conversion? Bien sûr, les exemples de brebis perdues cités plus haut reflètent la réalité de ceux qui ne sont pas en paix et manquent de repères. Mais combien sont aussi persuadés de n'avoir besoin de personne? Combien font tout pour cacher leur fragilité et leur vulnérabilité, pour qu'on ne puisse rien leur reprocher? Jésus vient chercher les brebis perdues. Il mange avec ceux et celles qu'on veut éviter. Mais le premier chemin qu'il fait, c'est qu'il vient nous chercher, nous aussi. Sommes-nous conscients de la nécessité d'être sauvés, de tout ce qui nous assaille et qui risque de nous perdre? Sommes-nous conscients de notre besoin d'être guidés par le Christ? N'avons-nous pas besoin de nous convertir tous les jours, de nous tourner vers Dieu sans cesse? Dans son grand mystère, Dieu veut venir auprès de chacun de ses enfants, auprès des 7,5 milliards d'êtres humains dans le monde, être présent, parfaitement présent, avec chacun et chacune, par son esprit, même si on ne le connaît pas. Nous avons la chance, par Jésus, de savoir que nous sommes aimés par Dieu de façon inconditionnelle. Nous pouvons recevoir son salut. Nous pouvons lui dire à notre tour « Je t'appartiens ». Les voix qui se rejoignent et qui disent à Jésus « Je t'appartiens », ce sont les voix qui se rassemblent au sein de l'Église. J'aime cette histoire des brebis, cette histoire de la brebis perdue, car elle nous porte deux dimensions. D'un côté, il y a la dimension individuelle qui autorise chacun, chacune d'entre nous, à exister devant Dieu en toute liberté et à se laisser trouver par lui. Et puis, il y a la dimension communautaire du troupeau. D'ailleurs, l'apôtre Paul développera cette dimension en prenant l'image du corps du Christ. La Sainte Cène que nous pouvons vivre ensemble est un moment qui reflète complètement cette double dimension de notre individualité et de la communauté. L'apôtre Paul nous le dit, vous êtes à Christ. Quand nous prenons chacun le pain, le corps du Christ, c'est notre être unique qui est nourri. Nous ne possédons pas le Christ. C'est lui qui vient nous habiter personnellement pour que nous devenions un membre de son corps. Mais nous avons besoin de la présence des autres. Ce sont des témoignages. Être là, c'est reconnaître qu'on appartient tous à Dieu par la vie de Jésus-Christ. Nous avons besoin aussi de nous sentir que nous appartenons à cette communauté d'Église. Au début de ma méditation, j'ai posé la question « Où suis-je? Où sommes-nous ? » Une fois que nous sommes accueillis par Jésus dans le lieu unique de son amour, qui est une autre façon de dire que nous sommes sauvés, pouvons-nous entendre son appel à accueillir à notre tour tous ceux de la société que la société rejette, ceux que mon jugement rejette? Jésus m'invite à ne pas me sentir supérieur aux autres, mais c'est en tant que brebis sauvée, personne sauvée, que je peux limiter mon jugement sur les autres. Nous savons bien combien il est impossible pour l'être humain d'avoir un juste jugement. Nous jugeons d'après ce que nous ressentons de l'autre, d'après nos critères de ce qu'est une conduite appropriée, d'après notre façon subjective et personnelle de percevoir les événements autour de nous. Et nous sommes bien incapables de voir ce que Dieu sait. Par exemple, que quelqu'un bien sous tout rapport à ses parts de ténèbres. Dieu connaît ce que je ne peux savoir. Alors, pour limiter mon envie de juger, c'est à lui que je peux me confier. Si je suis scandalisé ou choqué par un comportement, c'est à Dieu que je me remets, en même temps que cette personne. Car c'est ensemble que nous appartenons à Dieu et au Christ. Au lieu de ne voir que ce qui nous sépare, que le Christ nous aide à voir l'essentiel qui nous rapproche, son amour qui nous sauve chacun, chacune. Que cela nous aide à rester humbles dans nos jugements. Cette personne si différente appartient qu'au moins à ce corps mystérieux du peuple de Dieu. Amen.